Mairie de Thiel, séance du conseil municipal en mairie le jeudi 26 février 2026 à 20h34, enregistrement intégral et sans pause. Bien, commencer par l'appel. Alors, Thomas Valérie présente, Vincent Traclet. Buonomo Elisabeth, excusez, donne pouvoir à Valérie Pomaz. Jean-Marc Viennot.
Présente.
Delphine Viennot.
Présente.
Angélique Pujat.
Présente.
Michel Arger, excusez, donne pouvoir à Jean-Marc Viennot. Catherine Ferron.
Présente.
Christian Julien, excusez, donne pouvoir à Vincent Traclet. Victor Passarella est absent. Patrice Auret.
Présente.
Estelle Brumet est absente. Damaris Caropi.
Présente.
Lionel Gauthier est excusé. Véronique Dost.
Présente.
La première délibération. Ah non, pardon. Excusez-moi. Comment ? Non, pas tout de suite. Il faut approuver le compte-rendu du conseil municipal du 18 décembre 2025. Est-ce que sur ce compte-rendu, vous aviez des remarques ? S'il n'y avait pas de remarques, je vais mettre à votre vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Et sans surprise, avec un plaisir immense, il nous faut désigner une secrétaire de séance et... Delphine Vino, merci pour le dernier conseil municipal.
Voilà,
j'ai ma pitié.
Notre secrétaire de séance. Bien. La première délibération cette fois, urbanisme, avec l'approbation de la révision générale du plan local d'urbanisme. Alors, c'est une grande date quand même aujourd'hui parce que tout a commencé, si je puis dire, en octobre 2021 avec la délibération qui prescrivait donc cette révision. Donc jusqu'à aujourd'hui, c'est beaucoup de travail. On a reçu beaucoup de personnes. Je crois qu'on avait commencé par les agriculteurs, toutes les personnes publiques associées, hein, que ce soit... Alors, tous les services, je vais peut-être reprendre, ou alors si on peut mettre à l'écran la délibération du cabinet d'EBR pour citer les services. Alors, je la reprends à l'écran. Quand il veut, il n'y a pas beaucoup de... Voilà, la commune de Mézieux, puisque nous sommes, de l'autre côté du canal riverain de la commune de Mézieux, la Chambre des métiers et d'artisanat, la Compagnie nationale du Rhône, l'Agence régionale de santé, la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, la Chambre de commerce et d'industrie, le syndicat mixte, le SCOT Bugey Côtière Plaine de l'Ain, RTE, le réseau de transport d'électricité, le Conseil départemental de l'Ain, la communauté de commune de Miribel et du Plateau, la direction départementale des territoires, la mission régionale de l'autorité environnementale, l'Institut national de l'origine et de la qualité, l'INAO. Tous ces PPA ont été consultés, ont rendu d'ailleurs un avis favorable à notre PLU. À la suite, donc, pour nous, en septembre 2023, eh bien, il y a eu la présentation du projet d'aménagement et de développement durable, le PADD, une première réunion publique en octobre 2023, un atelier de concertation avec les habitants en décembre 2024, une deuxième réunion publique le 16 avril 2025, avec la présentation des OAP, des orientations d'aménagement programmées du futur zonage et des grands principes du nouveau règlement. Le conseil municipal du 26 juin 2025, arrêtant les études et projets de révision, la transmission donc de tout ce projet à la préfecture de l'Ain ainsi qu'à toutes les personnes qui ont été citées, qu'on a aussi également reçues à la mairie, la saisie du tribunal administratif pour désigner un commissaire enquêteur en la personne de monsieur Bougnol, que je remercie aussi hein, parce qu'il a été vraiment très partie prenante dans ce dans tout le procédé de l'enquête publique qui s'est déroulée du 13 novembre au 13 décembre, avec un dossier qui était consultable en mairie, mais aussi sur la plateforme PubliLégal, des permanences également qui ont été faites par le commissaire enquêteur. Une remise des rapports du commissaire enquêteur le 19 janvier au lieu du 13 janvier en raison des congés hein, du cabinet d'EBR qui nous accompagnait. La demande de prolongation du délai de remise de rapport et des conclusions motivées qui a été formulée auprès du tribunal administratif. Le 28 janvier, une nouvelle réunion de travail avec le cabinet d'EBR et les élus. Le 2 février, la mise en ligne des rapports et conclusions motivées du commissaire enquêteur qui donnait un avis favorable à notre PLU. Un délai de 15 jours qui devait être respecté sur le registre numérique PubliLégal et le site internet de la commune. Et le 9 février, la réunion d'examen final avait, entre le cabinet, les élus et certaines personnes publiques associées, puisqu'elles ont toutes été convoquées et certaines étaient présentes, pour finaliser le dossier suite aux remarques des personnes publiques associées et du commissaire enquêteur. Et puis nous avons aussi également travaillé sur toutes les remarques qui nous avaient été faites par les habitants lors de l'enquête publique. Et enfin l'envoi des documents finaux par le cabinet d'EBR. Alors ce que l'on peut voir dans le règlement. Alors, je ne vais pas citer les noms au niveau des habitants, hein, puisqu'on a répondu dans les documents qui sont joints et qui s'appellent. Et qui s'appelle. Hein ?
Le rapport du commissaire, vous voulez ?
Non. Le bilan des arbitrages. Alors, mais je peux reprendre dans les grandes lignes, hein, c'est parce que s'il veut bien s'ouvrir. Donc là, ce rapport des arbitrages donne bah, les avis de la CDPENAF. Hein, la CDPENAF, c'est la Chambre d'agriculture que j'ai oublié de citer, l'ADDT et comment ? Non. Et la CCMP qui avait fait aussi quelques remarques. Donc comment ? Le SCOT Bucopa, voilà, ça c'est les documents. Mais concernant les personnes, alors il y a des habitants qui nous ont fait des remarques concernant des maisons que l'on avait souhaité classer comme remarquables, qui ont souhaité qu'on les enlève, nous les avons retirées. Certaines personnes qui nous avaient fait des. Nous avons classé un certain nombre d'arbres remarquables également, et des personnes qui nous ont demandé, notamment deux personnes qui nous ont demandé des classements d'arbres remarquables, ce que nous avons fait. Nous avons rajouté des paragraphes de lutte contre l'ambroisie et les moustiques. Ça, vous trouverez ces explications dans les documents du règlement. Non, mais on verra rien. Donc, si on peut afficher le règlement plutôt. Parce que là, on verra rien du tout. Ce qui est important de retenir, c'est que ça a été un long travail parce que finalement, eh bien, on a essayé de tenir compte eh bien, de tout ce qui nous a. Ouais, règlement. Non, pas le graphique. Après la carte. Voilà. Donc là, si on descend, on verra que sur le règlement écrit, on verra quelques précisions en rouge. Dans les dispositions générales, donc des choses qui ont été mises pour rappeler quand on construit qu'on doit faire attention quand on remue la terre à l'ambroisie et puis aux moustiques tigres. Donc ça, il y a des choses qui sont mises en rouge, je ne sais plus. Donc ça, c'est les prescriptions par rapport au captage d'eau. Donc là, ça, c'est des choses qui ont été prises en compte. Donc là, c'est tous les éléments remarquables du village qui ont été classés. Et celles et les deux maisons que nous avions marquées, qu'on nous a demandé de retirer, qui ont été aussi enlevées. Ensuite, ce qui est important, donc celle-ci, par exemple, qui a été retirée. Donc si on continue de descendre, ce qui est important de voir, c'est donc c'est un règlement très classique au niveau de l'écriture. Donc là, c'est non, donc la lutte contre l'ambroisie, la lutte contre le développement des moustiques vecteurs de maladies. Donc ça, c'est des choses qui ont été rajoutées. Ensuite, si l'on descend, ce qui est important à voir, c'est le schéma qui est applicable aux zones urbaines. Alors, on va peut-être directement aller dans la zone UB, donc c'est beaucoup plus bas. Voilà, un peu plus haut, il faut remonter. Voilà, donc ce qui est important surtout, et ce qui va un peu plus haut, voilà, c'est de construire tout le village, donc maintenant est en zone UB, hein, plus qu'une seule zone, avec selon la hauteur du terrain naturel, eh bien, le devoir de construire ou pas sur un vide sanitaire ouvert et inondable, avec un calpinage qui donne quand même le fait que si on est en dessous de ce terrain, de la cote NGF qui est déterminée par le PPRI, eh bien, on doit faire ce vide sanitaire pour que l'eau puisse passer sous la maison. On a fait également une terrasse pour dire qu'elle devait être également faite sur pilotis. Les seuls endroits où il est possible de remblayer, eh bien, c'est bien évidemment au niveau de la porte d'entrée et de la porte de garage. Donc si on descend, on verra qu'il y a maintenant des dessins sur tous les côtés, toutes les faces. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important à retenir. Si l'on continue également, on verra les hauteurs de construction. Donc pareil, dans tout le village, c'est le R plus 1 avec une hauteur à l'égout du toit ou à la crotère qui part de la dalle finie, puisque en dessous, si nécessité, il y aura le vide sanitaire, mais que la hauteur de 7 mètres part bien de la dalle finie jusqu'à l'égout du toit, avec pas de possibilité de faire autre chose que du R plus 1. Puisque ça, c'était aussi une demande des habitants. Avec des implantations, avec des pentes de toit, donc ça, on n'a pas changé, hein, les pentes de toit, c'est toujours entre 30 et 50%, le retour vers toi, Vincent. Oui. Okay. Et aussi les choses qui changent, alors, l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, donc là la possibilité de pouvoir construire soit à l'alignement, soit avec un retrait maximal de 3 mètres pour les constructions qui sont implantées à l'alignement, celles-ci ne doivent pas avoir une hauteur de plus de 3,50 m. Mais ça, c'était une possibilité parce que beaucoup de propriétaires maintenant ont transformé leur garage soit en pièce à vivre, soit en bureau, par exemple, avec le télétravail. Et au jour d'aujourd'hui, ne peuvent pas valoriser celle-ci comme telle puisque ce n'était pas possible. Et pour nous, c'est aussi un manque à gagner hein, puisqu'un garage compte pour 25% comme emprise au sol et taxation au niveau des impôts. Et qu'en déclarant cette pièce à vivre comme une vraie pièce à vivre maintenant, eh bien nous percevrons des taxes normales. L'implantation des constructions par rapport en limite séparative, ça c'est pas des choses qui ont été modifiées. Si l'on continue, la chose qui est également très importante et qui change, ce sont les clôtures. Puisque actuellement le village, il y avait plusieurs possibilités, on pouvait faire ou des murs ou des clôtures. Là maintenant, il n'y a plus qu'une seule possibilité, ce sont des clôtures en grillage rigide, alors qu'ils peuvent faire par contre 2 mètres de tous côtés. Avant, c'était 1,50 m sur la voie publique et 2 mètres entre voisins. Maintenant, on peut faire des clôtures en grillage rigide sur une hauteur de 2 mètres de tous côtés, avec la possibilité de mettre des lamelles occultantes, mais pas installées sur les 20 premiers centimètres du grillage depuis le sol, pour pouvoir permettre, encore une fois, toujours le passage de l'eau. La création d'un coefficient de pleine terre, puisque lors des réunions ou des ateliers, les habitants étaient soucieux de dire qu'il ne fallait pas que le village soit trop densifié. Donc pour éviter la densification, nous avons donc créé un coefficient de pleine terre. Alors si on peut prendre la définition du coefficient de pleine terre, c'est vraiment un espace où on ne peut pas faire, par exemple, du stationnement. Un coefficient de pleine terre, c'est vraiment un espace de terre, je crois, sous au moins 2 mètres. Hein, en fait, c'est vraiment, oui, de la pleine terre. Il y a une définition précise et dans le lexique, peut-être tout à la fin. donc qui est de 30% avec la moitié de ce coefficient qui est d'un seul tenant. On ne peut pas faire 5 mètres ici, 2 mètres là, etc., etc. Il faut faire au moins 50% de ces 30% d'un seul tenant. Un coefficient d'emprise au sol qui a été diminué, le PLU 2015 donnait 40%, nous l'avons redescendu à 30%. Alors il s'apprécie lot par lot, puisque avant c'était quand il y avait des lotissements, eh bien, les coefficients d'emprise au sol étaient pour l'emprise totale. Voilà, donc là on a l'espace de pleine terre, la définition. Et ce coefficient d'emprise au sol, comme le coefficient de pleine terre, sera exigé au lot par lot. Alors, l'espace de pleine terre, c'est un espace de pleine terre qui est un espace perméable, végétalisé, pouvant accueillir de construction ou aménagement. Ne pouvant accueillir, pardon, de construction ou d'aménagement, ni en surface ni en sous-sol, sur 3 mètres de profondeur, à l'exception bien sûr des réseaux et des canalisations. Et puis les arbres. Alors les arbres, on avait sur l'ancien PLU un nombre d'arbres par mètre, enfin par rapport à la superficie de la parcelle. Là c'est la même chose, sauf que l'on a mis un calibrage au niveau des arbres. Si on peut reprendre, parce que j'ai pas tout en mémoire.
C'était un arbre tous les 100 mètres carrés avant. Donc...
Là c'est un peu différent. Au niveau des arbres. Alors, ils ont une taille, en fait, puisque avant, ils n'étaient pas normés. Et là, en fait, il faudra qu'ils aient un diamètre. Mais j'ai mangé le. Des arbres à haute tige, oui. Comment ?
Ils ont un diamètre défini.
Oui, ils ont un diamètre défini, mais je ne l'ai pas. Je l'ai pas. Noter, non, ça doit être plus bas. Bon, si on retrouve les arbres. En tout cas, un calibrage d'arbres et non pas la possibilité de mettre soit des tout petits bonsaïs ou des petits arbustes, puisque je crois que l'arbre, il faut qu'il fasse au moins pas 2 mètres, c'est pas ça ? On va retrouver la définition. Le stationnement, des aires de stationnement qui sont perméables à l'eau, hein, ça c'est aussi pour moins artificialiser les surfaces, avec la même définition, une place de stationnement par 50 mètres carrés de construit. Voilà pour les grandes lignes de ce PLU et de ce règlement. Il y a des OAP aussi, ce serait bien qu'on prenne, qu'on parle des OAP. Alors vous avez eu tous les documents qui vous ont été transmis. Si vous avez des questions par rapport à ça, en attendant. Alors l'OAP, donc numéro 1, c'est l'OAP qui est rue de l'église, avec la possibilité de construire des logements dans une dent creuse, donc du centre de village, mais sans compromettre l'accessibilité et la sécurité des déplacements piétons, avec la possibilité, donc si on va un petit peu plus bas, de construire 4 logements sur cette parcelle, avec un périmètre végétalisé tout autour et un espace pour permettre la circulation à l'intérieur. Donc ça, c'est la première OAP. La deuxième OAP, c'est l'OAP qui est rue du Canal. Alors, elle concentre un grand périmètre. Il y a eu plusieurs remarques d'habitants concernant cette remarque, notamment des habitants qui habitent à l'intérieur de cette OAP et qui avaient très peur qu'on leur impose quoi que ce soit. Quand on fait une OAP, hein, c'est d'ailleurs, il n'y a obligation de rien. Hein, si le propriétaire ne veut pas construire, il est tout à fait libre de ne pas le faire. Mais par contre, s'il le souhaite, eh bien, il faut qu'il construise suivant un règlement qui est précis. En l'occurrence, ici, c'est une grande parcelle, mais qui est enclavée. Et l'objectif, c'était de créer une voie suffisamment large pour permettre le croisement de véhicules et également la création d'un mode doux. Mais il est bien évidemment que toutes les personnes qui sont à l'intérieur du périmètre rose doivent être d'accord pour pouvoir créer les constructions qui sont sur cette orientation d'aménagement programmée. Donc ça, c'est ce qu'on a expliqué également dans les réponses que l'on a faites aux habitants qui avaient très peur que demain se fasse cette OAP. Mais encore faut-il qu'ils soient d'accord pour permettre, on le voit bien ici, le cheminement suffisamment large et dimensionné pour que les voitures puissent circuler et que les piétons et vélos également. Voilà pour cette OAP. Ensuite, ça c'est l'OAP qui est rue de la mairie. Alors c'est la seule pour laquelle on a mis une temporalité. Si on prend plus bas, donc chaque OAP a un nombre de logements qui lui est dédié. Donc on voit sur les dessins ici également les contraintes qu'on a mis pour cette OAP, à savoir, toujours pareil, un périmètre qui concerne donc toute une zone. On ne pourra construire que sur la partie violette le nombre de logements qui ont été prévus pour cette OAP, mais surtout créer une voie de circulation suffisamment large pour que les voitures puissent se croiser. Et surtout, alors il ne faut pas se fier à la flèche bleue qui est là, hein, c'est un exemple de ce qu'il est possible de faire, mais on souhaite que dans cette OAP, il y ait la création d'un mode doux qui rejoigne l'arrière du chemin de la fromagère pour que des piétons ou des vélos puissent accéder par l'arrière du village, soit à l'école, soit au centre du village, sans emprunter la route départementale. Voilà pour celle-ci. Avec à chaque fois, bien sûr, hein, des bandes végétalisées tout autour. Donc ça qui détermine la partie habitat, la partie lisière tampon, donc paysager, et puis les espaces agricoles qui sont autour. Donc ça, c'est l'OAP qui concentre celle qui est dans le centre du village, alors pour lequel il y a eu aussi plusieurs remarques et notamment une pétition. Parce que ce centre-village pour lequel nous avons préempté un terrain, c'est vrai que nous avons mis moins de contraintes au niveau du coefficient de pleine terre et du coefficient d'emprise au sol, mais c'est surtout parce qu'on veut le dédier à la création d'espaces et ou d'équipements publics, et que se mettre des contraintes, ça peut quelquefois créer des problèmes et des impossibilités pour quelques mètres carrés. Donc là, le projet est tout à faire, et c'est pour ça que dans la réponse que l'on a apportée aux habitants qui avaient peur de ce que l'on pouvait faire, déjà, on met un maximum de logements au niveau de 15, et ces logements sont en train de se faire, puisque c'est le projet des tilleuls. Mais c'est surtout le fait que on se réserve, bien sûr, comme on l'écrit, la possibilité de développer des services et des équipements publics. Une place, c'est aussi un équipement public. Et sur le devant de cette OAP, il y a également les arbres, les deux cèdres que l'on a mis en arbres remarquables. L'église, bien évidemment, qui est un bâtiment remarquable, donc il ne sera pas non plus détruit, pour ceux qui pouvaient le craindre. Et puis le monument aux morts, bien évidemment. Voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de contrainte. Hein. C'est des choses qui sont classiques dans les PLU, ce qu'on appelle l'hypercentre, où on peut se réserver la possibilité de faire des modes doux, de faire des espaces publics et surtout de faire des équipements publics qui peuvent servir au plus grand nombre. Et là, dans la réponse qu'on a apportée aux habitants, c'était de dire qu'on le ferait comme d'habitude en concertation avec les habitants. Si vous voulez rajouter, si Vincent, tu veux rajouter des choses que j'oublie, avec la création du mode doux qui a été créé et qui rejoint la voie partagée du Maduran via le chemin Louis Arger et qui fonctionne plutôt bien, puisqu'on voit quand même passer de plus en plus de personnes maintenant qui l'empruntent, et on a même fait une petite antenne sur le côté, c'est ça ?
Pour
rejoindre le parking des enseignants derrière, puisque les piétons avaient fait la trace, donc on a dimensionné maintenant le chemin.
Ça dépose minutes, quoi, maintenant, pour les...
Et le parking des enseignants sert aussi maintenant de dépose minute pour les parents qui viennent déposer leurs enfants à l'arrière, puisqu'on peut rejoindre très facilement l'école par le chemin qui sera bientôt habillé d'un mur réalisé avec la coulure et les enfants pour les vacances scolaires prochaines. Et puis la dernière OAP, c'est l'OAP rue du Stade, alors qui concerne également des parcelles qui sont une dent creuse du centre de village. Et là aussi, si on va sur la slide d'après, la contrainte qui a été mise, c'est d'avoir une voie dimensionnée, pareil, de la même manière pour les véhicules, hein, pour que les voitures puissent se croiser. Alors encore une fois, le trait bleu qui passe au milieu, c'est une indication, hein, c'est pas du tout le lieu où, ça peut être très bien sur les côtés, mais créer un mode doux qui parte donc du city et qui rejoigne l'entrée de la rue du Stade, et bien pour que les piétons et les vélos et puis les gens qui vont vivre dans ce lieu, et bien puissent circuler de manière sécurisée et créer aussi du passage des piétons, des vélos qui circulent et qui rejoignent le city par ce biais. Voilà pour la création de ces OAP au niveau urbain. Ça, c'est celle du Quai des Amours. Alors, ce qu'il faut retenir, bien évidemment, protéger le Quai des Amours tel qu'il est, mais surtout aller plus bas dans le descriptif. Voilà. Où là, on a voulu créer un petit peu... Faire un tout petit peu plus. Non, le BC. On voit de l'autre côté du canal. Voilà aussi. Où là, en fait, on a créé tout le maillage des modes doux que l'on souhaiterait voir. Alors soit certains existent déjà, mais pour lesquels on voudrait aussi mettre une signalétique. Alors vous voyez qu'il y a aussi des choses qui sont à créer, hein, par le biais d'emplacements réservés, notamment le lotissement Les Loups et le Clos du Village. Ça, c'est un emplacement réservé qui existe déjà sur l'ancien PLU et que l'on a maintenu. Et puis la zone qui est sur votre droite en jaune, à côté des étangs de pêche, où là le règlement, on va le voir sur la carte tout de suite après, permet l'installation de ce qui avait été une des premières décisions qu'on avait prises sur ce mandat, c'était la création d'un parc photovoltaïque pour permettre de combler ce lieu où il y a beaucoup de renouées du Japon qui poussent et pas grand chose d'autre, et puis aussi créer la possibilité d'avoir un petit revenu pour la commune. Donc ça, c'est quelque chose qui va être remis pour la prochaine mandature, hein, puisque la société avec qui nous avions conventionné attendait la modification du PLU pour pouvoir lancer la demande. Alors on n'est pas sûr qu'elle aboutisse non plus, puisque depuis l'enquête environnementale qui a été menée avec la révision de ce PLU, il a été trouvé, alors non plus du putois d'Europe, mais surtout du peuplier noir, et certains spécimens sont apparemment des arbres de haute qualité. Voilà, donc ça pour l'instant, mais il fallait bien aussi le taguer de cette manière, de manière à ce que le projet soit quand même rendu possible. Donc là, voilà, toute la déclinaison des modes doux que l'on souhaite donc créer dans le village et surtout indiquer. Voilà, et puis maintenant, peut-être la carte. Et puis bien sûr, hein, une OAP qui définit des trames vertes et des trames bleues, puisque ça aussi c'est une obligation avec les réservoirs de biodiversité. On va voir peut-être si on va directement sur le zonage. Enfin, le règlement graphique. Voilà. Donc ce nouveau zonage, alors avant, ce qui est en orange maintenant, si pour ceux qui ont le PLU de 2015 un peu plus à l'esprit, il y avait deux couleurs de rose, hein, ceux qui étaient en UB, il y avait même trois couleurs de rose, ceux qui étaient UB, ceux qui étaient UA et ceux qui étaient UBA. Donc maintenant, il n'y a plus qu'une seule couleur, c'est orange, puisque tout le monde, par souci d'équité finalement, eh bien, on a mis la même règle pour tout le monde au niveau des constructions. On retrouve bien évidemment toutes nos zones agricoles. Alors s'il y a deux couleurs, c'est qu'il y a des zones qui sont jaunes plus claires, ce sont les zones agricoles protégées, c'est celles qui notamment sont au PPRI complètement inondables, et puis les autres qui restent agricoles, mais c'est agricole normal. Là encore, on a répondu aux agriculteurs qui nous avaient fait des remarques pour pouvoir soit construire leur logement, alors à condition qu'il soit en lien avec l'activité agricole, ou voir des commerces, et là encore, il faut que ces commerces soient bien évidemment en lien avec leur activité agricole. Donc la zone plus bas vers les étangs en bleu, en vert plus foncé, donc c'est là où on a créé. Alors non, ça allait bien. Voilà. La zone photovoltaïque, hein, c'est le projet. Tout le reste, tout ce qui est vert, en fait, ce sont les zones naturelles. Et puis si l'on dézoome un petit peu, dézoomer oui et non. oui, je sais. Mais en fait, si l'on regarde sur la gauche, là où il y a le jaune plus clair, si on zoome un peu plus sur cette zone, un peu plus bas, on s'apercevra qu'il y a des petits points verts. On les voit là, qui délimitent là en fait. Ce sont la possibilité d'implanter des haies. Voilà, par exemple, ici. En fait, on a travaillé aussi avec les agriculteurs. Catherine, on avait été sur le terrain avec la possibilité de voir avec eux eh bien, la possibilité dans plusieurs endroits hein, de la zone agricole du village de pouvoir créer des haies parce que les haies maintenant, eh bien, on sait que ça protège aussi du vent et puis c'est important pour la biodiversité. Ça retient aussi un petit peu l'eau. Donc, mais on l'a fait avec les agriculteurs parce que ne pas aller le mettre si c'est à une mauvaise exposition et puis surtout pour leur permettre d'avoir la praticité de leur terrain quand ils le cultivent pour ne pas aller créer des problèmes quand il n'y en a pas. Voilà dans les grandes lignes, si on peut redézoomer pour voir mieux la carte de ce PLU qu'il vous est proposé. Alors en bleu en haut, hein, eh bien, c'est la zone UXR hein, qui concerne les entreprises de la zone Actinov. En face de chez Dacher, la partie plus verte, une zone naturelle loisir qui accueille le BMX. Et puis sur la droite, un autre vert pour définir l'aire de grand passage des gens du voyage. Voilà, tout ce qui est dans tout ce qui est vert un petit peu partout au niveau de la zone agricole, bah, c'était les haies et bosquets à protéger. Donc ça, c'est tout des choses qui n'ont pas changé par rapport par rapport au PLU 2015. Dire bien évidemment qu'il y a toujours la zone de captage du château d'eau. Que dire ? Je ne sais pas, Vincent, si tu veux rajouter. C'est bon, Jean-Marc, Catherine.
C'était excellent.
Oh, merci. C'est 4 ans, hein, à résumer, c'est pas aussi simple. Enfin, disons que un seul zonage avec, selon la cote de référence, eh bien, un bit sanitaire ouvert et inondable, ça c'est ce qu'il faut retenir, ou pas. Si le terrain est à la bonne cote, ça ne sera pas nécessaire. Et puis, plus de murs d'enceinte autour des maisons, mais des clôtures en grillage rigide de 2 mètres par contre, avec la possibilité de mettre des lames occultantes. Je pense que c'est ça dans les grandes lignes, Vincent. Si je
peux. Plein de voitures aussi qu'on a imposées avant, il n'y avait besoin qu'une.
Non, c'est le même nombre, mais sauf qu'elles sont perméables. On a demandé à ce que ne soit pas.
C'est obligé quand il y avait. Mais c'est le même nombre. Dans les lotissements, il n'y avait qu'un, et quand il y a petit logement, on a mis 2.
Non, c'est le même nombre.
C'est pareil. 50 mètres carrés, plus de 50 mètres carrés.
C'est pareil.
Il y avait une place de supplémentaire.
C'est pareil.
La seule chose, c'est que ça colle vraiment à ce que, aux prescriptions du PPRI en vigueur. Surtout pour ceux qui habitaient en zone UBA, qui étaient vraiment laissés pour compte sur le dernier PLU, qui ne pouvaient plus construire. Là, ils pourront construire en respectant la hauteur minimum pour être portés.
Voilà ce que l'on peut dire. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Je sais que pour certains, il y en a qui le connaissent presque par cœur.
Peut-être rappeler la durée de validité du PLU, durée moyenne, dans la prochaine révision.
Entre 10 et 15.
Oui, entre 10 et 15 ans. En fait, il faut qu'on soit conforme au SCOT. Donc le SCOT est rentré en révision et il ne faut pas qu'on soit trop éloigné de la dernière révision du SCOT. Donc c'est des documents d'urbanisme qui sont faits, oui, pour les 10-15 prochaines années, à condition aussi, par exemple, qu'il n'y ait pas un PLUI,
hein,
un plan local d'urbanisme intercommunal, qui là viendrait être un document, c'est pas dans les... Enfin, c'est les choses dont on parle, alors pas spécifiquement à la communauté de communes chez nous, mais dans toutes les communautés de communes maintenant, souvent c'est des PLUI qui viennent s'instaurer, parce qu'un PLU pour une commune c'est aussi un coût, c'est un peu plus de 50 000 euros avec les dépassements, donc c'est quand même quelque chose qui est lourd pour une commune, et même sur 10-15 ans, et après, il faut souvent faire des modifications ou des choses qui ont aussi à chaque fois un coût, donc c'est quand même, voilà, c'est pas négligeable.
L'ancien a duré 10 ans.
Voilà.
Oui, non, c'est plus pour communiquer la formation.
À peu près.
Après, ça dépend aussi d'une fois qui va être en fonction. De sa, comment il va vivre, parce qu'on va peut-être s'apercevoir qu'on n'a peut-être pas été
on est passé à côté,
oublié des choses, ou il faudra peut-être faire des révisions ou pas,
ou des modifications,
ou des modifications simplifiées.
Si tu fais un PLU, tout ce qui n'est pas interdit est permis. Donc des fois tu peux essayer, il y a toujours des échappatoires pour construire un truc.
Des petites niches quoi, des petites failles.
Ouais, c'est pour ça que souvent, pour ça qu'on se fait accompagner par des bureaux comme DBR, qu'eux ils ont l'habitude d'en faire bien de sûr. Partout, d'avoir des trucs qu'on peut ne pas voir. Mais il y aura toujours quelqu'un qui va trouver un truc pour échapper à une réglementation. Parce que la règle, c'est tout ce qui n'est pas interdit, c'est permis.
Enfin, ce qui change vraiment par rapport à celui de 2015, outre le vide sanitaire ouvert, enfin un seul zonage par rapport à trois qui étaient existants, ce vide sanitaire ouvert qui nous a posé des problèmes dans certains zonages, un coefficient d'emprise au sol qui est plus petit, donc on pourra sur une même parcelle eh bien, moins construire, et puis la création de ce coefficient de pleine terre, hein, où on maintient aussi donc vraiment de la pleine terre, hein, sans possibilité de mettre une terrasse dessus, hein, c'est vraiment de la pleine terre qu'il faut laisser. Et ça, ça permet aussi de créer des poumons verts et de moins artificialiser les sols. Et puis nos arbres, alors on n'a peut-être pas retrouvé le calibrage, je crois que c'est 15 cm. Hein, non, c'est beaucoup, 15 non. Ou 10
10, 15, 10, c'est pas beaucoup. Hein.
10,
c'est ça le diamètre.
Je ne sais plus. Enfin, il y a un diamètre minimum d'arbre, en tout cas. Et donc ce diamètre donne une hauteur, en fait. Voilà.
Il faut éviter quand les gens qui pensent, quand on a fait le DRCT, où on avait, j'exagère un petit peu, le bonsaï, il disait, il y a quoi
il n'y avait pas de définition, donc un tout petit arbre, eh bien,
voilà. Je crois que c'était 10.
Comment ?
Je crois que c'était 10.
Le diamètre, oui, c'est possible. C'est possible.
Ce qui est aussi important, c'est les arbres remarquables.
Ah oui.
La bonne remarque. Ouais.
Un arbre remarquable, même s'il est malade, on peut l'abattre, mais on est obligé d'en replanter un.
La même essence.
Pas forcément la même essence, mais par contre, ça doit être un arbre.
Et au même endroit.
Ceux qui sont taillés.
Pour enlever la souche.
On ne peut pas dire on coupe l'arbre et on met une maison dessus.
Voilà. C'est fini. Et on en a classé beaucoup.
Il y en a pas mal qui ont été classés quand même.
Dans la commune. Alors, il y a des personnes qui nous ont demandé de les enlever et on les a retirées de la liste. Mais par contre, on en a aussi, on en a aussi donc mis beaucoup parce que ça fait aussi partie du paysage, ça fait aussi partie des choses. On a tous, quand le sapin est tombé rue du Besson, on était tous tristes si l'arbre avait été... Ouais. Ça n'empêchait pas qu'il tombe.
Le cèdre.
Mais au moins, le cèdre. Mais par contre, il n'y aurait pas une maison à la place, c'était au moins un arbre. Donc voilà. C'est aussi pour protéger. Et puis quand on s'est promené dans le village justement pour voir tous ces arbres, hein, le cabinet l'avait fait, mais nous aussi on l'a fait. Il y a plein de beaux arbres dans le village, quoi. Et même si on l'a fait, c'était pas l'été. Et on essayait de s'imaginer, de se dire, bah là s'il n'y a pas l'arbre, finalement c'est moche, quoi. Donc,
oui. Donc, les satanes qui sont sujets aux maladies. S'ils sont abattus, il faudra replanter des arbres à cet endroit.
Une autre essence, parce que c'est vrai que les platanes
se plantent. Oui, bien sûr.
Vu que ça prend des maladies, mais... Et on a pas mal des platanes, même dans les propriétés.
Ouais.
À l'intérieur des propriétés, il y a pas mal d'endroits où il y a des platanes.
C'est vraiment un outil qui permet de garder un village végétalisé.
Ouais. Bon, après, il y a aussi certains arbres, je dis, tiens... Là, il ne faut pas emmerder le monde non plus. Il est en plein milieu de terrain, il ne peut plus construire rien du tout. C'est donc plus après lui, il est pénalisé. Il a un beau terrain, il y a un arbre au milieu. Il a beau être beau.
C'est
arrêté
après.
Et quand l'autre, chez l'autre, c'est bien, un bel arbre, mais quand c'est chez toi, tu.
Alors j'ai retrouvé la définition de l'arbre. Hein. Donc,
ah, il y
l'arbre...
a certains qu'on n'a pas. Justement, on n'a pas tagué certains à cause de ça.
Ah, oui.
Ah, c'est beau, tout ça.
J'ai retrouvé,
sur le côté de la propriété.
J'ai retrouvé la définition de l'arbre. Donc l'arbre est planté par tranche complète de 50 mètres carrés de la surface de pleine terre, minimale exigée. Il devra répondre aux conditions cumulatives suivantes. Présente une hauteur supérieure ou égale à 2 mètres lors de la plantation. Présente une circonférence du tronc à 1 mètre du sol, supérieure ou égale à 10 cm.
Ah oui.
En fait, je crois que c'est les normes dans les jardineries. De un arbre qui fait 2 mètres, il a telle circonférence à 1 mètre de hauteur. Voilà. Donc, comme ça, c'est précis et au moins ça définit ce qui devra être planté. Voilà, donc parallèlement à cette présentation et au document, il y aura des arrêtés qui seront pris pour obliger le dépôt d'une déclaration préalable, donc pour les clôtures, puisque ça, c'est pas non plus une obligation, mais nous, on y tient parce que quand on est en zone inondable, c'est important d'avoir des déclarations préalables, des demandes de travaux pour des clôtures pour pas mettre non plus n'importe quoi. L'obligation de dépôt d'une déclaration préalable aussi aux divisions parcellaires dans la zone UB du territoire communal. L'instauration d'une obligation de dépôt de permis de démolir, parce qu'il faut l'écrire. Si on ne l'écrit pas, ben, il n'y en a pas besoin. Ainsi que l'instauration du droit de préemption urbain simple sur le territoire communal. Donc ça, c'était quelque chose qui existait déjà, mais c'est bien de remettre ces arrêtés aussi au goût du jour et de la nouvelle et de la réglementation en vigueur, en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions ? Alors, donc, il faut déjà, c'est dans la délibération de Marvin, il faut déjà qu'on envoie en préfecture, il faut déjà qu'il revienne de la préfecture, approuvé, mieux. Et ensuite, il faut qu'on publie comme quoi il est... Comment ?
Pour le publier dans un journal.
Pour qu'on publie dans un journal. Comme quoi il est affiché aussi en mairie pendant un mois et après il devient en vigueur. Donc là il n'y a plus que... On n'a jamais été aussi près.
Oui.
qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Bien. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais soumettre à votre vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions adoptées à l'unanimité. Je vous remercie et je vous remercie toutes et tous aussi pour le travail, les réunions, les visites, les déambulations qui ont été faites pour ce permis. Ensuite, donc, c'est la même chose, mais concernant le zonage collectif et non collectif. Alors ça, c'est en lien avec la CCMP. Quand on approuve un PLU, on approuve également le zonage d'assainissement. Si on peut mettre à l'écran. Juste le zonage, pour bien redéfinir.
La carte,
oui, juste la carte. Voilà. Alors, toutes les parties rouges, bon, voilà, c'est plus la zone actinov, mais si on descend toutes les parties rouges, eh bien, c'est tout ce qui concerne l'assainissement collectif dans le village. Et toutes les parties jaunes, eh bien, c'est tout ce qui reste à faire, donc les tranches 3 et 4. Alors, vous m'arrêtez, mais normalement, la tranche 3, les études, c'est cette année et les débuts des travaux fin 2026 ?
Les études courant 2026 et début des travaux 2027.
D'accord.
C'est ce qu'on nous a dit à la CCMP.
Ouais.
On n'est pas les seuls à décider.
Non, mais bon, normalement, et la tranche 3, elle part de la rue du Stade et elle va jusqu'au lotissement
et
vers cher, c'est ça. Et la tranche 4, ça sera celle qui restera à faire. Donc là, on voit non seulement donc, l'assainissement collectif, donc la grosse patate orange, donc ça, c'est l'assainissement collectif qui va sur la station d'épuration de Niévrose. Et puis en haut, c'est la station d'épuration de Roseau qui dessert le Clos des Platanes et également le lotissement des Gémeaux 2, le petit lotissement qui est détaché là sur la partie rectangulaire du haut. Voilà pour cette carte de zonage. Donc là, celle-ci, elle a été faite par la communauté de communes qui l'a également, on l'a approuvée en séance du conseil communautaire. Et donc elle définit aussi un règlement hein, pour pouvoir justement qui définit les règles d'assainissement collectif et non collectif. Hein, vous connaissez tous le SPANC, les mises à jour, les mises aux normes, les visites du SPANC. Donc ça c'est complètement classique. Est-ce que par rapport à cette approbation du règlement non collectif et collectif du zonage, vous avez des questions, de l'assainissement, pardon, vous avez des questions. S'il n'y a pas de questions, je vais mettre à votre vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Abstention adoptée. Je vous remercie. Ensuite, nous passons. Les finances ? Bien. Donc, tu nous parles du CFU ?
Alors, le CFU, je ne sais pas si vous vous souvenez, les années précédentes, on votait deux comptes, le compte administratif et le compte de gestion. Donc, le compte administratif, c'est le compte détenu chez nous par l'ordonnateur, et le compte compte de gestion, celui que le trésorier détenait. Il y a une loi, maintenant c'est un CFU, donc c'est une fusion des deux. On devait le voter ce soir, sauf qu'il y a eu une panne informatique auprès de la DGFiP.
Tu es gentil.
Oui, je minimise. Du coup, nous n'avions plus accès au serveur. Donc, le CFU n'a pas pu être produit par la trésorerie. Donc, il ne nous est pas possible de le voter ce soir. Rien de dramatique parce qu'il doit être voté à la date limite d'approbation et le 30 juin. Lors du prochain conseil, il sera approuvé. Et ça ne remet pas en cause l'affectation du résultat, parce que les résultats avaient quand même été pointés. On a eu le temps d'avoir le CFU provisoire et les résultats concordés entre la trésorerie et nous. Et voilà, ça n'empêche pas l'affectation du résultat et le vote du budget primitif que vous allez voter juste après. Voilà. Donc, prochainement, vous le voterez.
Donc, il n'y a pas de vote concernant ce CFU 2025. Donc, c'est indépendant de notre volonté. Hein. On a vraiment une très grosse panne à la DGFiP, hein, mais au niveau national, hein, c'est...
Oui, panne, oui. Pirate, je peux dire.
Voilà.
Voilà.
J'invite d'ailleurs hein, toutes les personnes qui ont... des salaires via
oui, ça a été quand même,
la trésorerie.
Ça a remis en cause les salaires des fonctionnaires. Enfin, ça a été,
aller voir ce qu'on appelle le FICOBA, hein, sur votre impôt.gouv, vous faites service, autre service, et vous avez accès à votre FICOBA, c'est les comptes bancaires. C'est la liste de vos comptes bancaires, parce que cette panne, comme ils disent, a entraîné des fuites et qu'ils se sont aperçus que pour certains usagers, eh bien, des comptes bancaires avaient été créés à l'insu des gens. Et donc, en fait, en demandant ce certificat, hein, qui c'est très rapide, hein, donc on va sur son impôt.gouv, on fait autre service et on fait accéder à mon FICOBA. Et on valide le formulaire et on reçoit la liste de tous ces comptes bancaires, parce qu'apparemment certains ont eu quelques surprises d'avoir des comptes qui avaient été créés pas par eux. Donc c'est suite à ces fuites. Ça a été vraiment je pense que, enfin, on n'en a pas beaucoup parlé, mais ça a été quand même vraiment très sérieux au niveau de la DGFiP, et donc pas que sur notre secteur, hein, c'était national. Hein.
Ah oui, oui. Ben,
juste un point de vue, autre service.
FICOBA, accéder à mon FICOBA. FICOBA. C'est le
merci beaucoup.
Compte bancaire, le FI.
C'est
un acronyme pour dire c'est accès au compte bancaire, et en fait il y a un formulaire à remplir.
D'accord.
On coche si on veut avoir et en fait après ça valide un formulaire qui nous dit qu'on a bien fait une demande, et après on reçoit de Trévoux la liste de ses comptes bancaires. Et comme ça, on est sûr que si les comptes bancaires, la feuille que l'on reçoit correspond bien à nos comptes bancaires, c'est que tout va bien, quoi. Mais donc, c'est ce qu'ils nous ont dit de faire, parce qu'apparemment, il y a eu, de par ces fuites, des comptes bancaires qui ont été créés à l'insu des personnes.
Merci. Voilà.
Bien, donc on passe directement à la suivante. Avec donc la...
Alors, les réalisations du budget 2025, donc en fonctionnement, on a dépensé 941 774,25 € pour 990 387,54 € de recettes. Nous sommes donc en excédent de 48 613,29 €. Investissement. On a dépensé 267 818,99 € et reçu en recette 102 173,34 €. Donc là, en revanche, nous sommes en déficit d'investissement de moins 165 645,65 €. On peut peut-être préciser pourquoi on est en déficit, parce que nous avons commencé à engager des factures concernant la rénovation de l'école et la future, le futur bâtiment multimodal dans la salle d'activité. Parce que pour cela, on va avoir des subventions, mais les dossiers sont en cours et on n'a pas encore les subventions. Et pour ce projet, il y aura un recours à l'emprunt. Et l'emprunt, pareil, n'a pas encore été contracté. Donc, du coup, on a déjà engagé des dépenses, mais l'emprunt va couvrir ces dépenses ainsi que les subventions qui seront obtenues. Donc, résultat 2025 plus le résultat cumulé, donc N-1 de 2024, donc ce qui donne le résultat de clôture de l'exercice 2025, donc en fonctionnement 1 055 364,82 €.
Dans
qui s'explique toujours. Non, ce n'est pas Jean-Marc qui a gagné au loto.
Il joue, mais il gagne pas.
Ça s'explique toujours le fonctionnement où on est plutôt bien par le fait du don qui a eu lieu en 2019. Voilà, de 500 000 €, c'est ça. Donc, ce qui explique qu'on est plutôt bien au niveau fonctionnement. Et en investissement, donc résultat de clôture, on est à moins 84 267,74 €, parce que l'année dernière, on était en excédent du fait des deux ventes des terrains où maintenant il y a un Habitat et Semcoda. À cela, on ajoute les restes à réaliser. Alors, les restes à réaliser, c'est des dépenses qui ont été validées en 2025, mais dont nous n'avons pas reçu les factures avant la clôture de l'exercice. Donc, on en a 47, ce qui nous permet de, en fait, payer les factures avant même le vote du budget. Donc, il y en a pour 47 580 68 en investissement, qui correspond à la fin du PLU et toujours des factures par rapport à la rénovation thermique de l'école et, du futur, et de la future salle. En recettes d'investissement, on attendait encore 66 601,18 €. Donc, une subvention de l'État pour la subvention du City Park. City. Oui, le parc de loisirs. Voilà, la création du parc de loisirs. Ainsi que la CCMP pour tous les travaux de voirie qui ont été engagés en 2025, puisqu'on peut prétendre au fonds de concours à hauteur de 50% des travaux engagés. Et notamment le plateau surélevé qui a été fait rue du Canal fin d'année 2025.
Chemin de la Boisse.
Oui, on a fait le chemin de la Boisse.
Le stade. Et une partie de la fromagère.
Donc on attend plus de recettes que de dépenses. Donc au final, en besoin de financement, on est à 65 248,24 €. Donc après, on vous propose la répartition dans le budget. Donc dépenses d'investissement, c'est pour combler le déficit. Ça, c'est le déficit final, 84 260,74 €. Le besoin de financement est de 65 248,24 €. Peut-être on prend sur le fonctionnement. Et ensuite, donc, vous voyez, on était à 1 055 364. Et comme on prend pour combler le déficit en recettes de fonctionnement, on budgétise 990 116,58 €. Voilà. Les chiffres officiels. Qui sont plus ou moins validés par le CFU provisoire de la trésorerie, mais dont on n'a pas pu voter le CFU définitif ce soir.
Et donc le CFU reprendra à peu près la même chose.
Exactement, c'est exact. Obligatoire. Ouais. Alors les résultats ont quand même été, j'ai le tampon de la trésorerie qui valide ces chiffres. Et donc on peut bien reporter ces chiffres au budget primitif 2026.
Est-ce que vous avez des questions? C'est là que je sors? Je sors pas là.
Bah non, là où vous devez sortir, c'est le CFU.
D'accord, donc je reste là.
Vous restez.
Formidable.
Vous ne sortez pas de la salle.
Tu voulais aller prendre l'air?
Non, mais d'habitude, je sors.
Ouais, c'est pour le vote du compte administratif et maintenant c'est le CFU où vous ne prenez pas part au vote. Okay. Et ça ne sera pas pour cette fois-ci.
Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions?
Je sais pas si j'ai été claire.
Comment?
Je ne sais pas si j'ai été claire.
Mais très claire.
N'hésitez pas.
Très claire. Bien, et eh bien s'il n'y a pas d'autres questions, je vous demandais d'approuver l'affectation du résultat tel qu'il vous l'a été brillamment présenté. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Adopté, je vous remercie. Qu'est-ce que tu dis, Vincent? Ensuite, nous passons donc au taux d'imposition 2026. Alors, un petit rappel, nous avons au niveau de nos taux qui n'ont pas bougé depuis longtemps. En tout cas, sur ce mandat, ils n'ont pas bougé. La taxe foncière sur les propriétés bâties, 27,30%. La taxe foncière sur les propriétés non bâties, à 58,13%. La taxe d'habitation des résidences secondaires, nous n'en avons pas beaucoup, à 13,68%. Et donc, il est proposé ce soir de maintenir les taux de 2025 pour l'année 2026, à savoir 27,30 pour les propriétés bâties, 58,13 pour les non bâties et 13,68 pour les résidences secondaires. Vous dire également que depuis ce mandat, on avait commencé le mandat en ayant un taux qui était important par rapport aux autres communes de la communauté de communes, et que depuis 6 ans, on se retrouve dans les moins élevés, puisqu'il y a Saint-Maurice-de-Bénaud qui est à 26 et quelques. Comment ?
Je peux les afficher si vous voulez.
Ouais. C'est intéressant.
Ah non, c'est là.
Ah, Alors, si on prend les taxes foncières des propriétés bâties à Bénaud, donc nous, 27,30. En dessous, il y a Saint-Maurice-de-Bénaud, 26,02. Mais sinon, on voit que, alors, Néron, 27,35, c'est pratiquement pareil. Métramois, 30,45. Bénaud, 31,47. Et Mirebel, 39,50. Donc ça, c'est la partie de la taxe foncière qui est notre principale, enfin, qui est notre principale source de revenus. Donc sur les propriétés, sur la taxe foncière, sur les propriétés non bâties, je crois que ça représente autour de 10 ou 15 000 euros.
C'est les produits de...
Ah, il y a les produits. Voilà, vous avez les produits d'ailleurs, ce que ça a rapporté hein, sur les années 2024 et 2025, donc sur la taxe foncière bâtie, en 2025, 485 667. Foncière non bâtie, même si le taux est élevé, ça représente que 11 000 euros. Et la taxe d'habitation sur la résidence secondaire ne concerne pas beaucoup d'habitations dans le village à 6 840 euros. Donc voilà, 503 842 euros de recettes concernant nos taux d'impôt. Voilà, donc il vous est proposé donc de maintenir ces taux pour l'année 2026. Est-ce que vous avez des questions, des remarques?
On a vu, donc, en regardant plus en détail lors de la commission générale, que les produits prévus en 2026 allaient baisser.
Disons qu'on n'a pas les chiffres de 2026 encore.
Et alors, il y avait des chiffres dans le budget, mais c'était les estimations qui restaient à confirmer, c'est ça?
Oui.
Parce qu'en fait, généralement, on s'est posé la question, mais Sandra a expliqué que généralement, la DGFiP nous donne la valeur, mais là, avec les problèmes qu'ils ont eus, on n'a pas leur confirmation.
Okay, donc, on peut pas dire donc, si ça va.
Oui, et dans le budget, on a préféré minimiser les recettes. Okay. Il faut toujours mieux minimiser.
Bien sûr.
Plutôt que prévoir plus et recevoir moins, ce qui peut après nous faire un décalage et être en déficit. Et puis, c'est vrai que cette année, on vote le budget un peu plus tôt. Habituellement, on vote mi-mars, fin mars, en raison des élections. Et du coup, il y a des chiffres qui ne sont pas encore parvenus. Donc, c'est pour ça qu'on préfère marcher sur des œufs et minimiser certaines recettes.
Bien. Concernant cette proposition, est-ce que pas d'autres questions, je vais proposer à votre voix. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Adopté. Je vous remercie. Ensuite, on passe au vote du budget primitif 2026. Je te laisse détailler.
On n'a pas arrêté de prendre le budget 2026.
On peut ? On peut. Je te laisse à la manœuvre. Pendant ce temps, je bois l'eau potable.
Je vais juste revenir parce que ça vous avait été présenté sur les grandes lignes du budget 2025 qui avait été fait. Fonctionnement, frais de personnel, frais de PM, puisque comme vous savez, on conventionne avec la police municipale à raison de 18h par semaine, je crois. On a toujours nos trois versos à la crèche Nino et Co. La poursuite et la fin du classement des archives par l'archiviste du centre de gestion. L'ouverture du centre de loisirs les mercredis, plus depuis septembre, les vacances scolaires via la structure sport escapade. On a renouvelé le marché de la cantine, donc c'était RPC, c'est à nouveau RPC qui a eu le marché. Changement du prestataire pour le nettoyage des locaux, on est revenu à JLC Propreté. On a revu notre DURP, notre document unique sur les risques professionnels. On a fait pas mal d'achats de voirie pour tout ce qui est gabions, miroirs, panneaux et l'installation des illuminations de Noël pour le fonctionnement. L'investissement, donc on a poursuivi la révision générale du PLU, la rénovation de l'école et la construction de la salle multi-activité. À l'école, le remplacement du sèche-linge et d'un jeu à ressort dans la cour avec le gazon synthétique. City Park, fin de l'aménagement du parc, donc avec les dernières plantations, installation d'une station de gonflage de vélo, terrain de volet, table et banc tour de guet pour les enfants et un petit pump track. Voirie, réfection des chemins en enrobé, la bois, stade fromagère, reprise des chemins agricoles en concassé, plateau surélevé rue du canal, installation de la borne IRVE au parking du cimetière et l'éclairage public, la fin du passage en LED et l'acquisition des décos de Noël qui sont devant la mairie. Salle des fêtes, l'aménagement de la cuisine et à la mairie, un changement de poste informatique. Heureusement, on a quand même des subventions. On en a eu pour la numérisation du cimetière, pour la révision du PLU, la création du parc nature et les fonds de concours de la CCMP pour la voirie. Et aussi, comme on est déclaré en accueil de loisirs sans hébergement pour le périscolaire et la cantine et les mercredis, on a le droit à une PSO, une prestation de service ordinaire de la CAF. Et enfin, nos dotations de l'État, le FCTVA et la taxe d'aménagement et les impôts en recettes. Ça, c'était les réalisations de 2025.
Récupération de la TVA, on peut dire
que... N-1, donc voilà. Sur les investissements, cette année, on va toucher sur les investissements de 2025. Toutefois, la TVA est de 20, mais l'État nous rembourse que 16%.
Voilà. Parce qu'ils l'ont décidé.
Pas grand-chose.
Comment
c'est par rapport aux années précédentes?
Non, c'est des années, c'est prévu que ça soit revu à la baisse.
Et il y a quelquefois certains travaux où ils peuvent ignorer le remboursement du FCTVA complètement, ça peut arriver.
Déjà, tout n'est pas pris en compte dans le remboursement, ouais. C'est vraiment des lignes de compte spécifiques. Et s'ils peuvent ôter quelques factures, ils le font. Au lieu d'être remboursé à 20%, nous sommes remboursés à 16%. Mais compte tenu de tous les investissements qu'il y a quand même eu en 2025, on prévoit quand même 30 000 euros de FCTVA cette année sur 2026. Les grandes lignes pour 2026, fonctionnement, pas de grand changement. Le fret personnel, l'APM, les trois berceaux. Toujours le centre de loisirs et la structure sport escapade. Il y a la fresque sur le mur chemin piétonnier avec la coulure, vous avez dit pendant les vacances d'avril, oui. C'est ça. Spectacle du Tal,
il n'y en aura pas. Spectacle, mais on ne se fera pas.
Subventions aux associations, donc ça c'est pareil, d'habitude on le vote en même temps que le budget, mais cette année ça sera voté après les élections. Changement de l'adoucisseur de l'eau qui a lâché à l'école. Et alors là, on a un gros chantier. C'est la renégociation des contrats téléphonie et Internet, parce que je pense qu'il faut tout qu'on revoie pour qu'on n'ait plus qu'un ou deux prestataires, parce que là, on a, je pense... On en a 8 entre la téléphonie, entre Internet, entre... on va essayer de renégocier tout ça.
Et surtout, on n'est pas satisfait.
Oui, au-delà de ça, du débit de la fibre optique.
Puisqu'on a un débit qui est proche de DSL, quoi. Enfin, c'est pas du tout un débit de fibre qu'on a.
C'est ça. Pour les investissements, la concentration donc sera donnée sur l'école, la poursuite donc du projet de rénovation et la construction de la salle multi-activité. La poursuite et la fin, comme vous l'avez voté ce soir, la révision générale du PLU. Et Jean-Marc, je crois que vous avez les dates, le remplacement des caméras avec l'ajout des nouvelles.
Donc à partir du 9 mars jusqu'au 20 mars.
Donc là, et pour ça...
Mais ça, il m'avait déjà dit ça en décembre, et puis après en janvier, et maintenant...
Il fait beau maintenant.
Donc ça sera le 9 mars au 20 mars.
Donc on a quand même eu là des subventions à hauteur de 36 000 euros, et ça nous coûte 65 000 euros, je crois... d'investissement. Donc,
et on va redemander encore à l'État.
Oui, on a retenté, l'État nous a refusé la demande de sub, mais on persiste. On a refait un courrier pour redemander une subvention.
Ils sont tellement motivés
sur un malentendu.
Oui, je pense que on a refait le petit courrier pour dire
une troisième fois.
Parce que là, on a obtenu de la région et de l'État.
Et du département.
Du département, pardon. Département, région, et on espère avoir l'État, mais voilà. Donc, les recettes, ce sera les subventions donc, de la vidéoprotection. Et là, cette fois-ci, de la rénovation de l'école et sa multi-activité, elles vont commencer à tomber. Toujours la PSO de la CAF. Et puis, les taxes d'aménagement, les dotations de l'État, les impôts fonciers, et puis le FCTVA. Du coup, ce budget qui vous est présenté, il doit être, comme chaque année, équilibré en section de fonctionnement. Donc, c'est-à-dire que les dépenses et recettes de fonctionnement doivent être identiques, tout comme la section d'investissement. Donc, pour le fonctionnement, on vous propose un budget à 1 883 806,58 €. Et en section d'investissement de 453 091,06 €. Donc on voit quand même qu'on a essayé de faire des économies, puisqu'il y a 26 000 euros de moins par rapport à 2025 et 138 000 euros de moins par rapport à 2025 sur l'investissement. Voilà, on a essayé de revoir tout ce qu'on pouvait à la baisse, notamment en fonctionnement et puis en investissement aussi. Voilà, compte tenu du déficit qu'on a eu en fin 2025. Vous voulez voir le tableau ligne par ligne ?
Non. Non. Ça y était, le tableau ?
Non, le fichier Excel qui a été envoyé. Parce qu'après, voilà, c'est tout. C'est, voilà. Oui, je pense pas qu'on va détailler toutes les lignes. Hein, voilà, c'est vraiment. Donc, comme il vous a été présenté, il y a le fonctionnement avec tous les comptes. Et voilà, l'essentiel, c'est que, comme vous le voyez, les dépenses de fonctionnement sont équivalentes aux recettes de fonctionnement, idem en investissement.
En fait, comme finance, on avait travaillé ligne par ligne pour essayer de se dire, on peut faire des économies là.
En fait, on a repris ce qu'on a dépensé, réalisé en 2025, et essayé de voir si on pouvait baisser par rapport à ce qui a été dépensé. On a juste dû réajuster par rapport au gaz, le SIEA. Oui.
On avait finalement pas eu la facture du dernier semestre.
C'est ça.
Et on a quand même une augmentation de la consommation. Alors après, je repensais, Jean-Marc et Vincent, comme on a eu la fuite aussi en janvier.
C'était une micro-fuite.
Je ne sais pas. Non, mais je ne sais pas.
D'après ce que disait le GRDS, c'était une toute petite fuite.
D'accord.
Je ne sais pas si ça... Après, je ne sais pas depuis quand
ça
fuit.
Après, il reste à revoir tous les bâtiments, comme celui-là, là, ici, qui doit consommer pas mal. Mais comme dans un premier temps, on devait foutre un coup de pelle dedans, on n'avait pris aucune décision d'améliorer le chauffage ici. Comme maintenant... on va le garder encore une dizaine d'années. On est obligé de revoir avec des régulations et compagnie. Mais on ne va pas gagner non plus des...
Non. Bah après, on paiera toujours moins cher parce qu'on est en groupement d'achat avec le SIVA aussi.
Ouais. Mais c'est vrai, quand même... Ah oui, mais c'est sûr que c'est bien moins cher que le groupement
d'achat. D'être seul,
comme l'électricité, on paye 104 euros le mégawatt. Ça fait 10 centimes le kilo.
Non, mais c'est un groupement avec le SIEA nous aide à avoir des prix plus attractifs.
Et on est chez Total Energy maintenant. Le département, c'est Total Energy.
Oui, on est passé de chez Octopus à Total Energy.
Ouais, Octopus à Total Energy.
Et Engie pour le gaz.
Est-ce que vous avez des questions concernant notre budget ? Bien. Travailler dessus toutes les lignes. Bien, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Adoptées ? Je vous remercie. Alors, en l'absence de Babette, je vais vous présenter bien les frais d'affranchissement. Comme chaque année, la convention de mise à disposition des infirmeries et cabinets médicaux du collège Émile Cizin. Puisque c'est la commune qui est en charge des écoles primaires et maternelles, et nous assurons les frais d'affranchissement des dossiers médicaux à raison de 1,52 € par élève et par an. De plus, la commune participe aux frais de fourniture de bureaux, de la prise en charge des communications inhérentes à leur activité par élève de maternelle et du primaire pour un montant forfaitaire de 60 €. Donc 144 élèves par 1,52 € plus 60, ça fait un total de 278,88 € qu'il vous est proposé d'approuver selon la convention de mise à disposition. C'est comme chaque année, hein, la même démarche.
L'année prochaine, il y aura Bénon, quoi. pas si c'est pas le même truc quand même.
Ah, ça oui,
là,
je.
C'est les points d'interrogation.
Il y aura des élèves, on aura peut-être les deux.
Il y aura peut-être les deux. Ouais. Parce que comme on en aura encore à Émile Cizin et les CM2 qui vont partir sur Bélo.
On va en avoir 15, là,
je sais pas aller à Bélo. Il y a beaucoup d'infirmières sur tout le secteur d'ailleurs.
Ouais.
Moi, je pense qu'on a
dit.
Pas un médecin.
Mais... Pas bah, après, c'est les chiffres.
Pas grand-chose à dire.
On comprend quand même, à travers cette petite délibération, petit montant, on est d'accord, hein,
oui,
que les dossiers médicaux, c'est pas dématérialisé. Quoi. Ça s'envoie toujours par la poste.
Visiblement, oui.
Alors, c'était ça l'année dernière, ça sera ça l'année prochaine. C'est le progrès être en marche ou non, qu'est-ce qu'il faut.
Mais, des fois, par la poste, c'est pas hacké.
Ça peut être détourné, mais...
Ça peut être détourné, mais pas...
Il n'y a pas de
je sais, mais mouvement je pense pas que ce
qui soit envoyé par mail.
Mais je ne sais même pas si c'est... Je sais pas si c'est les dossiers ou si c'est leurs frais quand ils ont des choses envoyées.
Oui, je pense pour les frais d'affranchissement des dossiers courriers médicaux liés à leur activité.
C'est à leur activité.
Pour les élèves de maternelle et d'élémentaire.
Oui, c'est même pas un dossier c'est par pas élève. Dossier c'est élève, pas voilà, le élève. Dossier de l'élève.
Ouais. S'il y a un dossier spécifique pour un élève,
là,
je pense.
Là, il y a 144 fois 1,52. C'est bien qu'il y a, il y a bien quelque chose par élève.
Non, mais c'est pas...
Oui, mais c'est à mon avis...
C'est forfaitaire.
C'est le forfait pour calculer par élève, mais ça ne concerne pas, à mon avis, un dossier.
Et pas tous les élèves non plus. C'est une sorte de code part.
Parce que nous, on a tous... ce qu'on appelle des PAI, des trucs comme ça, c'est tout dématérialisé.
Bah oui.
Tout sur l'ordi.
Même ceux qui sont 10 quelque chose ou,
10 ouais. Fraxiques, dyslexiques, 10
dysfonctionnels.
Ça aussi, c'est parce que l'infirmière, le médecin, en fait, ils utilisent les locaux du collège et peuvent venir sur site ici. Donc en fait, on paye aussi un peu les locaux.
Non, mais c'est pour comprendre. Hein,
oui.
Pas d'opposition, mais c'est.
C'est en euros, là, c'est pas en kilo.
C'est en eau. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres remarques ou questions, je vais proposer à votre vote, s'il y a des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Eh bien, poursuivre, donc l'ORAZ, c'est le réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté, dispositif de l'éducation nationale, hein, comme chaque année, donc qui a pour but de mission de prévenir et réduire les difficultés que les élèves peuvent rencontrer à l'école. Donc c'est placé sous la responsabilité de l'inspectrice de l'éducation nationale. Et l'antenne de Méribel est composée de deux enseignantes chargées de l'aide pédagogique ainsi que d'une psychologue. Les communes sont Méribel, Saint-Maurice, Néron, Tramois et Thiel. Et à ce titre, pour pallier au... Non, il n'y a pas Bénaud là. Enfin, c'est comme ça. Hein. À ce titre, pour pallier aux frais de fonctionnement, une subvention est demandée pour l'année 2025-2026. Alors là, c'est pareil, c'est 144 euros, hein, c'est 1 euro en fait par enfant.
Élève.
Comment ?
Oui, c'est ça, 1 euro par élève.
1 euro par élève.
Scolarisé.
Et donc là, c'est pareil, mais c'est oui, c'est ça arrive que la psychologue.
Oui, l'année dernière, alors Babette avait fait état de 3 ou 4 enfants suivis à l'école de Thiel cette année, je ne sais pas. Mais on a eu des enfants qui ont été suivis par. La psychologue.
Voilà, donc là c'est pareil, c'est classique. Il n'y a pas de questions. Je vais procéder au vote parce qu'il y a des contre, des abstentions adoptées. Je vous remercie. La délibération suivante, l'acquisition de la parcelle A839, on peut peut-être la mettre à l'écran. La parcelle qui appartient à l'association, à l'ASL, pardon, les Tuileries. En fait, cette petite parcelle, elle a toujours fait partie du permis d'aménager du lotissement Les Tuileries. Pourtant, elle. Alors là, c'est petit.
Ouais.
Et celle-là.
Là, c'est l'auberge.
Vers l'auberge.
Voilà,
là,
c'est
y a l'auberge.
L'auberge qui est presque en face.
L'auberge, oui.
Et donc ce petit bout, il n'y a plus bien sûr les constructions maintenant, et eh bien c'est un chemin piétonnier qui rejoint directement les rives du Nautonnier, le nouveau lotissement qui a été construit. Et en fait, la SL Les Tuileries, qui n'a aucun intérêt à avoir cette parcelle ni à l'entretenir, eh bien, nous propose pour l'euro symbolique de pouvoir l'acquérir. Et comme ça, nous pourrons l'entretenir et elle pourra être utilisée par les riverains pour pouvoir ne pas prendre finalement la rue de la mairie avec le virage et le passage rétréci devant l'auberge et de passer directement par le petit chemin.
Oui, oui. Il y a déjà plein de plantes.
Alors, il a déjà été... Oui, parce qu'en fait, quand ils ont aménagé le lotissement, ils l'ont paysagé quelque part. Mais bon, c'est vrai que les Tuileries, ils sont... Comment ?
Il est fermé pour le moment.
Oui, il est fermé parce qu'en fait, l'ASL ne veut pas l'ouvrir parce que sinon, il faudrait qu'ils l'assurent. Et eux, ça leur sert strictement à rien et qu'ils l'entretiennent. Et c'est pareil, ils n'ont pas de paysagistes qui interviennent dans leur lotissement. En fait, c'est les riverains qui font l'entretien. Donc, tant qu'on n'a pas acquis le petit bout, bah, il n'est pas utilisé, quoi. Et c'est dommage. Enfin, les nouveaux habitants sont très demandeurs de pouvoir l'emprunter.
Ça fait sortir directement à la face de l'auberge.
Donc, voilà. C'est pour cela que l'on vous sollicite.
Pourquoi ce n'est pas eux qui l'ont acquis
Parce que tout le monde pourra le prendre comme ça, de ce fait.
Parce que si jamais ça fera comme le lotissement des loups, s'ils ne veulent pas, ils peuvent le laisser fermer.
Tout le monde pourra le prendre, mais de toute façon, on arrive dans le lotissement.
Tu peux ressortir de l'autre côté.
Tu peux ressortir de l'autre côté.
Ça va communiquer.
En fait, ça communique.
Entre le gros bâtiment qui existe et les petites maisons, il y a un chemin piétonnier qui rejoint cette parcelle-là.
Qui n'est pas privé, qui est à tout le monde.
Ah bah, qui sera ouvert.
Leur chemin à eux, c'est chez eux, mais c'est ouvert.
C'est ouvert.
Et en fait, donc, du fait d'acquérir cette partie, eh bien, on va pouvoir l'emprunter puisqu'il appartiendra et sera entretenu par la commune et permettre de rentrer en temps à pied ou à vélo dans leur lotissement.
Oui, mais justement, comme c'est privé, ça ne pose pas de problème.
Non, parce que, l'hôtelier, il voulait aussi cette ouverture. Ils étaient pour. Ils n'étaient pas contre, c'est eux qui demandaient à faire. Ils ont déjà coupé le mur, ils ont déjà tout fait, c'est déjà tout près de leur côté. Ils auraient pu dire non, on n'en veut pas, on laisse fermer. Comme entre le
coup des platanes et les sujets. En fait,
les deux sont d'accord.
Il y avait un mur qui était à la fin de ce chemin, en fait, il y avait un mur. Et en fait, ils ont cassé ce mur pour pouvoir justement permettre cette circulation.
Mais là, il faut qu'ils l'entretiennent, parce que là, en ce moment, c'est Beyrouth.
C'est eux ou c'est nous
qui avons... Ça va être à nous maintenant.
Notre partie à nous, ça sera à nous. Après,
la parcelle, oui. Côté, la parcelle qu'on achète.
Mais eux, ils sont en demande de qu'ils soient ouverts. Mais en fait, la SL des Tuileries ne veut pas parce qu'ils ne l'assurent pas et qu'ils ne l'entretiennent pas.
Ça coûte 1 euro. Je ne
sais pas ce qu'il y a les frais de notaire.
Oui, les frais de notaire.
Un peu plus avec les frais de notaire, mais bon, ça ne va pas aller chercher.
C'est Jean-Marc qui paye.
Allez chercher bien.
Il a gagné que 2,50€.
2,30€ au loto, 30. Il a gagné. Donc voilà, c'est bon, tu peux acquérir Jean-Marc.
Oui, c'est le début de la fortune.
Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, vous pouvez proposer à votre vote, quel est votre contre. Les abstentions, je vous remercie. Et la délibération suivante concerne la convention avec le département sur le plateau surélevé rue du Canal. Donc c'est une convention, Vincent, c'est ça, entre la commune et le département.
Oui, qui nous autorise à faire un plateau piétonnier qu'on avait fait avant qu'ils nous l'autorisent. Mais...
Non, mais enfin avec leur accord quand même.
Avec leur accord quand même.
Mais la rédaction des actes est un petit peu long au niveau du département.
Donc, ouais, il faut 6 semaines pour rédiger une convention, donc c'est un peu long. Surtout qu'on était obligé de coordonner les travaux avec les travaux de voirie du lotissement pour que ça sorte au bon niveau, quoi.
C'est ça.
Pour faire tout d'un coup et que ce soit propre, on a anticipé. Mais là, on régularise en fait la convention, comme c'est une route départementale.
Ok, qui permet aussi que les habitants du rive du Nautonnier puissent sortir plus en sécurité.
Aussi. Et que les autres roulent un peu moins vite aussi.
aussi. Mais ça, on verra avec le radar.
Avec le radar pédagogique, on aura des chiffres, les prochains chiffres, on verra si ça a fait ralentir la circulation.
Il y a des changements, obligatoirement.
Oui, ils sont
vitesse maximale 124 quand même. À ce moment-là, la voiture qui a été prise plus vite, c'est à 124 km/h.
Mais avant le plateau. Hein.
On va faire un taxi.
Peut-être une moto.
Peut-être une moto.
Je pense que c'est
une moto. Un véhicule. Et route de Bénaud, c'est 131.
On n'a que l'enregistrement de la vitesse, on n'a pas le type de véhicule. On sait que tel jour à telle heure est passé un engin à cette vitesse. Peut-être notre journaliste préféré qui fait beaucoup de vélo et qui quelquefois va très vite.
J'ai mis le boost.
Vélo électrique, c'est ça.
Allez, vélo électrique maintenant.
Débridé.
Débridé.
45, 50. Allez,
25 maxi.
Voilà, donc c'est la convention qui vous est proposée de signer avec le département de l'Ain pour ce plateau surélevé rue du Canal. Est-ce que sur cette délibération, il y a des votes ? Des abstentions adoptées ? Je vous remercie.
C'est déjà fait.
Oui.
Je les avais eus avant quand même.
Non, eux sont pour. Donc,
j'avais discuté avec un monsieur qui s'appelle Cano d'ailleurs.
Oui.
Jeff ?
Non, son frère. Son frère.
Ça avait été un peu tard. On est arrivé.
Bien, on arrive. On n'a plus de délibération. Encore une fois, merci à toutes et tous pour ces 6 années. Je trouve que ça a passé vite.
Oui, ça a passé très vite. Merci à toi.
Je ne sais pas
merci
pour vous
toi,
aussi.
Ouais, merci. Mais,
non, c'est pas ça. C'est... Petit tour de table. Patrice ?
Pas de questions.
Pas de questions spécifiques.
Pour ce dernier conseil.
Non. Pas seulement. On a soif.
C'est pour ça que j'abrège.
On a soif, on a
pas de
soif.
Il a monté le chauffage exprès.
Non, j'ai rien de spécial à dire. Merci à toi.
Moi non plus. J'ai été contente de faire partie de cette équipe. Et puis voilà.
Okay. Delphine.
Eh bien, moi aussi, j'étais très contente de faire partie de cette équipe. Et de remplir ce cahier vraiment depuis 6 ans.
Il
y a quasiment que mon écriture.
C'est ça.
Donc voilà, merci de m'avoir permis de tenir ce rôle et tous les autres.
Et tous les autres. Merci à toi. Vincent ?
Non, rien de particulier.
Jean-Marc ?
Non, tu étais encore parfaite comme d'habitude.
Oh là 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 là.
C'est les
entretiens de l'histoire,
quoi. Voilà.
Mon Dieu,
très soif, Jean-Marc.
Je remarque.
Bien compris.
Bon, il a pas bu d'eau. Hein. Oui. Ah, il y a des
pétales dedans. Angélique ?
Eh bien, moi, je vous remercie tous. Toi, ma Valérie, surtout. Tu as fait pas mal de choses pour le village. Enfin, tous ensemble, on a quand même.
Tous ensemble.
Ouais, tous ensemble. Et un peu déçu de ne pas refaire partie de l'équipe prochainement. Et une belle continuation à tous.
Mais une bonne continuation merci. À toi aussi.
Merci.
Véro ?
Rien de particulier, mis à part plein de belles choses pour la suite.
Merci. Alors, fin de l'enregistrement, mérite-t-il fin de la séance du conseil municipal le jeudi 26 février à 22h01.